Bon, bah, Thomas arrivera quand il arrivera. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuel Berhammer, je suis rédacteur en chef du site fantasy.fr. Nous sommes ici pour parler de j'ai oublié le titre, de À la pointe de l'épée, tueur et sabreur. Donc, avec moi, nous avons Ange.
Bonjour tout le monde.
À la fois romancière et scénariste de BD. Elle en a énormément à son actif. Dans notre cas, on va surtout parler de la geste des tueuses de dragons.
La geste des chevaliers de dragons.
Chevaliers de dragons. Je mélange les deux.
La geste des chevaliers de dragons et Belladone, puisque là, il y a des fleurets, justement. Je viens d'y penser. Deux séries.
Mais on peut aussi parler de la légende des tueuses démons.
On peut aussi.
N'est-ce pas ?
On peut.
Parfait. À mes côtés, Helen Kushner, que vous avez déjà entendu parler depuis deux jours, donc qui est l'auteur de À la pointe de l'épée et de Thomas le Rimmer. Vous avez aussi écrit d'autres romans qui font suite à celui-ci.
C'est ça, mais ça, c'est le seul qui est apparu en France, ce qui est traduit en français. Mais j'espère qu'on va traduire les autres si ça marche bien.
J'espère aussi. Et à ma droite, Pierre Peuvel, auteur reconnu en France et à l'étranger de plusieurs séries de romans, notamment Le Chevalier de Wildstatt, Ambremer et surtout Les Lames du Cardinal qui a été traduit en Angleterre et publié aussi aux États-Unis, c'est ça ?
C'est ça, oui. Je dois dire quelque chose ?
Ce que tu veux. Et Thomas Géa, à la pointe de la ponctualité.
C'est pas une excuse.
Donc Thomas Géa qui a, entre autres, publié deux romans aux éditions critiques. Le Sabre de sang, c'est ça, Thomas, tome 2.
C'est ça.
Génial.
C'est génial.
Donc le sous-titre de cette table ronde, c'est « Tueur et sabreur dans la fantasy ». Déjà, moi, ça m'interpelle un peu. Ça veut dire que les sabreurs, ce n'est pas des tueurs ou quelqu'un veut répondre à cette magnifique question ? Vas-y, Thomas.
Je peux essayer, mais bon, on peut être sabreur, à mon avis, et effectivement pas tueur, parce que le maniement du sabre, à mon avis, c'est quelque chose qui est... en tout cas, dans certaines cultures proches d'un art, c'est pas forcément un art qui est destiné à tuer. Voilà. Enfin, je pense que je sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais je crois pas que ce soit forcément une arme pour tuer, non. En tout cas, pas de façon moderne, puisque par exemple dans la culture japonaise, on voit que le sabre est devenu presque est même complètement devenu un art plus qu'une culture de tuer. Donc je pense que le sabre effectivement a diverses facettes.
Quelque chose à ajouter, Anne, Pierre ?
Moi, mes escrimeurs, s'ils apprennent à se battre à l'épée, c'est clairement pour trouver la paillasse des autres, c'est pour se défendre et c'est pour tuer. C'est une escrime utile et en l'occurrence guerrière.
Et aussi, il faut savoir que dans les jours anciens, pour être frappé avec un épée, c'était peut-être la mort, si on veut ou non. Alors, dans ma monde inventé de la pointe de l'épée, j'ai fait deux sortes de duels. La première, c'est à la morte, et l'autre, c'est au premier sang, on dit ça. C'est ça. Et ça, c'est peut-être un tout petit truc de comme ça. Et c'est fini, le duel c'est fini, car c'est très, je crois que ça c'est très différent quand on fait un dualisme, si on veut bien tuer et pas jouer du tout, mais pouf, c'est fini, ou bien pour faire un petit truc comme ça, pour dire moi je suis le meilleur et puis c'est fini.
Dans votre univers, votre héros c'est un tueur professionnel qui est engagé pour en gros laver l'honneur de nobles qui veulent pas se mouiller. Chacun a un peu ses comment dirais-je, ses objectifs, ses points de vue. Le tien c'est un peu quelque chose de totalement différent, quoi.
Ouais, effectivement. Enfin, je crois que l'utilisation du sabre dans le sabre de sang est déjà symbolique à la base, puisque bon, c'est quand même le titre du diptyque. Donc, il y a une utilisation symbolique qui fait que le sabre est au cœur de l'intrigue du diptyque. Ensuite, effectivement, il y a aussi à l'intérieur du diptyque des personnages qui sont les héros, qui sont des personnages secondaires, etc., qui utilisent cette arme et qui est une arme couramment utilisée dans ce monde. Donc forcément, ils se battent aussi avec ces armes-là. Après, il y a la dimension, comme je disais, il y a la dimension symbolique aussi qui est plus... comment dire... symbolique. Voilà, enfin, je ne vois pas trop comment le dire autrement. C'est vrai que il faut être au cœur du récit pour pouvoir vraiment comprendre aussi ce que je veux dire là-dessus. C'est que à la base, ce sabre a été forgé dans le sang d'une race éteinte qui a un sang magique, etc. Le sabre n'est pas simplement destiné à être une arme de poing et une arme de lutte, quoi. Voilà, c'est la dimension va au-delà de ça.
Anne.
En fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est tout cette... pourquoi on va parler d'épée dans nos romans et dans nos BD et dans des millions de films sur Excalibur, et pourquoi l'épée a cette force-là, cette symbolique-là. Je veux dire, c'est d'épée qu'on parle. On ne parle pas de marteau, on ne parle pas de machette, on ne parle pas de hache. Ou alors la hache va avoir une symbolique complètement différente. Donc, pourquoi est-ce que l'épée a pris ce symbolisme-là, pourquoi c'est l'épée, l'arme blanche par excellence, et pourquoi elle a pris cette noblesse, ce poids, cette métaphore. Et je me disais que c'est à la fois un symbole très masculin pour des raisons évidentes de forme, et à la fois un symbole féminin dans un sens où c'est devenu ce symbole masculin de force, se sophistique et devient un art très féminin. On en fait de la dentelle, on en fait de l'art. L'épée énorme du début devient un fleuret. Donc ça va mélanger donc en fait un symbole masculin sexuel, n'est-ce pas, et ça se sophistique. Et puis aussi, il ne faut pas oublier tout simplement très pratiquement que ça symbolise l'arrivée de l'âge du métal, l'âge de la fonte, l'âge de l'arrivée de l'acier, c'est-à-dire soudain un bond technologique pour l'humanité qui est énorme. La fonte, c'est... on est passé à une autre ère avec l'ère du métal, et je pense que l'épée représente ça. Et c'est pour ça que l'épée a aussi, quelque part, une espèce d'aura de civilisation. Je veux dire, Excalibur, on ne se dit pas quand Arthur va chercher Excalibur qu'il va chercher une arme de mort, même si pourtant c'est le cas. Il ne va pas chercher une arme de mort, il va chercher le symbole d'une civilisation. Le symbole d'une civilisation perdue, le retour à un âge qui était meilleur. Je pense qu'il y a tout ça dans l'épée. C'est un bon pour l'humanité, et ça, toute cette symbolique-là, et c'est pour ça que les auteurs de fantasy, de manière générale, s'en servent énormément. Je n'ai absolument pas répondu à ta question, tu remarqueras.
Tout à fait, mais c'était très intéressant quand même. Merci. Et ma question, sinon
Je sais plus ce que c'était que ta question.
Moi non plus, hein.
J'avais eu une réponse. Oui, mais vous savez plus, alors. C'était quoi mes questions? J'étais parti sur les motivations des personnages à l'origine, non?
Peut-être.
Oui, peut-être. Ok, ça commence bien.
Non, mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que l'avènement du métal est quelque chose de très très important, enfin très important dans les cultures. Et on l'a bien vu justement. Enfin, moi je reprends l'exemple du Japon, mais il y a eu différentes périodes dans l'histoire du Japon où on a vu aussi différentes évolutions du sabre. On a commencé par des sabres de mauvaise facture, des sabres droits qui cassaient facilement, etc. Et puis la technique s'est affinée, les Japonais ont eu de nouveaux fers, on fait des sabres courbes, parce que le sabre courbe permettait une meilleure prise en main de l'arme, permettait une meilleure coupe. Enfin, les techniques se sont affinées aussi, et du coup, c'est vrai que l'évolution des armes, et notamment justement des armes blanches comme ça, est assez intéressante à étudier de ce point de vue-là, quoi. Et je pense justement, ouais, notamment dans cette culture japonaise qui est très, très précise en fait, hein, dans ces évolutions. Hein.
Et moi, je me suis toujours demandé, donc je suis désolée, je vais leur poser une question. Pourquoi la justice est représentée par une épée? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est l'épée le symbole de la justice?
Parce qu'il y a une tête qui doit tomber.
Oui, mais
processus, un mariage de la civilisation, du pouvoir des hommes, comme tu as très bien dit, c'est quelque chose qui est fait avec la technologie. Et aussi, c'est belle, c'est belle. Alors, tout ça qui c'est une chose de symbolique et aussi de rituel. C'est le rituel et ça devient un peu sacré, je crois, ces duels. Et on croyait en avant que c'est le pouvoir de Dieu qui donne la main forte à quelqu'un. Mais quand même, au 18e, je crois qu'on ne pensait pas à ça. On avait la force du style, de l'élégance et de savoir, de savoir-faire, n'est-ce pas?
Oui, enfin, moi, je connais surtout les escrimes du 17e, 18e siècle européen. C'est une escrime qui va être ritualisée, qui est supposée être élégante. Mais le but fondamental du jeu, c'est de faire mal à l'autre sans avoir mal soi, quoi. C'est que l'idée qu'il puisse avoir égalité, c'est absolument aberrant. Il n'y a pas d'égalité dans un combat d'escrime de mousquetaires. Il y en a un qui gagne et un qui est mort, quoi, ou qui est gravement blessé, ou qui ne va pas bien, ou qui a perdu des doigts ou une main. Il n'y a vraiment pas possibilité de, ou alors on peut perdre tous les deux ensemble, ça c'est une autre option encore, en s'empalant mutuellement sur l'épée de l'adversaire. Mais c'est la seule possibilité d'égalité. Mais
les deux trébuchent.
Voilà, où c'est vraiment une, enfin c'est un match nul que personne ne veut, celui-là, c'est clair. Les épées sont importantes dans mes bouquins, bah fondamentalement c'est presque une tautologie. Mais moi j'ai écrit des romans de capes et d'épées, donc forcément je pouvais pas faire l'abstraction de l'un ou de l'autre. L'arme maîtresse de l'époque, c'est l'épée. En l'occurrence, c'est la rapière, qui elle-même est considérée comme étant la reine des épées, puisqu'elle allie à peu près toutes les qualités des épées européennes. La souplesse, la solidité, la rapidité. C'est à cette époque-là que l'escrime se développe vraiment de manière très très intéressante et va devenir grandiose. Ensuite, quand on voit apparaître les fleurets, c'est déjà moins une arme de guerre. Personne n'est jamais allé sur un champ de bataille avec un fleuret, c'est suicidaire. Il faut surtout pas faire ça, quoi. Tandis que la rapière, c'est une belle épée, ça peut avoir une lame qui à la base va faire 3 ou voire 4 cm de large, c'est des beaux morceaux. Et je sais de quoi je parle, j'en ai chez moi, quoi, parce que c'est en effet de très beaux objets. Il peut y avoir une beauté dans l'épée, dans la rapière en particulier, sur la garde, la beauté de la lame, etc. Donc moi je m'attache, j'ai quand même un personnage qui a une rapière un peu particulière, mais pour les autres essentiellement ce sont quand même des outils. Par contre, j'avais pas fait attention à quelque chose, et c'est un éditeur qui me l'a fait remarquer. On discutait un moment pour une autre édition, en l'occurrence une édition étrangère, on envisageait différentes options de couverture. Et l'éditrice, la anglaise en l'occurrence, me dit en anglais, on pourrait représenter sur les couvertures les différentes, elle dit blades, donc les différentes lames. Et quand elle dit ça, moi je crois qu'elle me parle de mes lames du cardinal, puisque les lames sont le surnom d'un groupe d'aventuriers, d'espions. Et je pense que quand elle dit blade, elle pense aux différents personnages. Alors je dis, ah oui, pourquoi pas, oui, c'est une idée. Et puis on se rend compte au bout d'un moment qu'on ne parle pas de la même chose, et donc elle précise son propos. Et là, je comprends qu'elle me parle en fait des épées. Et je lui dis, ah bon, mais oui, après tout, oui, pourquoi? Et elle me dit, mais parce qu'ils ont tous une épée différente. Et les bras m'en tombent, je dis, ah bon? Ce qui fait pas du tout sérieux quand on rencontre son éditeur étranger. Et elle me dit, mais oui, je t'assure, chaque personnage, en tout cas, il y en a au moins 5 parmi les 7, qui ont une épée particulière. Et donc, je suis allé voir mon texte. Très intrigué. Donc ça m'a permis de vérifier d'une part que c'était une bonne éditrice, parce qu'il y avait une connaissance de mon texte qui était très très bon. Alors pour elle c'était très très bien, moi c'était moins glorieux comme moment. Mais donc je suis allé voir mon texte après et je l'ai remarqué que oui, en effet, et je n'avais pas fait exprès. C'est-à-dire que j'avais en quelque sorte souvent projeté sur les épées de tel ou tel personnage des caractéristiques ou des attitudes, des presque une manière d'être du personnage. Ou alors, quand c'était pas... alors, l'exemple typique, c'est il y a un type très balèze, il a une épée très balèze, très grande, très plus lourde que les autres. Ou alors, parfois, et ça, c'était encore plus subtil, et là, j'avais vraiment, vraiment pas fait attention, c'est que j'avais utilisé l'épée
en même temps que comme un outil ou comme une arme, mais également comme un accessoire. C'est-à-dire que, oui, assez naturellement, sur un personnage qui faisait attention à son apparence, voire qui était presque élégant, voire dandy, j'avais imaginé une épée avec une garde un peu plus raffinée que les autres, etc. Mais bref, moi, je n'avais pas fait attention à ça. Mais donc, lorsque cette éditrice Gillian a mis le doigt là-dessus, je me suis rendu compte à quel point, oui, les épées étaient très importantes et encore même plus que je ne le pensais, puisque c'est presque d'elles-mêmes, certaines s'étaient imposées comme un élément déterminant, mais de deux personnages, quoi. C'est aussi bien. Après, j'ai fait plus attention, mais aussi important que pourrait l'être un événement dans le passé du personnage, ou sa couleur de cheveux, ou sa taille, ou le fait d'être manchot ou pas, etc. Finalement, son épée devenait un élément de lui-même extrêmement important également.
C'est le cas pour vous autres aussi, l'épée prolongation du personnage ?
J'ai pas d'épée.
Du personnage.
Mais je t'en prêterai une, arrête de bouder, j'en ai deux.
Alors je suis d'accord. Non mais... ouais, mais c'était même le cas en fait dans mes précédents romans qui étaient des post-apocalyptiques. En fait, où on suivait un personnage qui était un solitaire et qui trimballait toujours avec lui des couteaux. Et c'était un roi du lancer du couteau, donc... là, dans le sabre de sang, c'est vrai que je ne pouvais pas imaginer un monde en plus qui est proche, on va dire, d'univers à la Conan, sans une arme maîtresse, entre guillemets. Et je trouve que le sabre était vraiment quelque chose d'assez fort, justement, pour accompagner un personnage guerrier qui, effectivement, représente un peu la force brute, mais aussi qui peut être changeant, parce que justement on a deux personnages qui sont en opposition dans les deux tomes, et le sabre est aussi là pour rappeler que quel que soit le personnage qu'il possède, qui le porte, la façon de le porter n'est pas la même et les actions ne sont pas les mêmes malgré le fait qu'on porte cette arme. Voilà. L'utilisation ne sera jamais la même. Et je trouvais ça intéressant, justement, de montrer ce côté-là du sabre qui, à mon sens, est vraiment représentatif de la façon d'agir des personnages.
Pour mon bretteur professionnel, Richard Saint-Vierre, c'est un peu différent, je crois. Pour lui, son épée, c'est comme un... C'est outil et presque une boîte à outils qui sont ces épées, parfois fleurettes et parfois pas. Et il va peut-être son favori, c'est là, j'adore ça c'est parfait, celle-ci, mais il y a des autres aussi. Il est très, on dit toujours, comment est-ce qu'il est très si dispassionné sur ce qu'il fait, il les tue bien, mais pour lui c'est un exercice presque de l'art et de l'athlétisme. C'est quelque chose dont il veut être excellent, et car il y a vraiment des règles dans ma société pour tuer, c'est pas une chose de passion, pas surtout pour lui, c'est ça qui lui rend aussi attractif et un peu effrayant pour les gens.
Et toi, Anne ?
Alors, nous, on s'est servi des épées principalement dans, j'irais, deux séries de BD. Donc, une série s'appelle donc, La Geste des Chevaliers Dragons. Alors là, c'est un monde où, initialement, moyenâgeux et très masculin, où soudain des dragons apparaissent, et pour une raison mystérieuse pour l'instant, les seules personnes qui peuvent combattre ces dragons sont des jeunes filles vierges. On a repris, bien sûr, la métaphore de la licorne et de la vierge. Et l'idée, donc toute l'idée de la geste, c'est que du coup se crée un ordre de chevaliers dragons qui sont des femmes, et que la naissance de cet ordre va complètement changer la sociologie de ce monde. C'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans un monde très masculin où là soudain on est obligé de donner du pouvoir aux femmes, ou plutôt où les femmes vont prendre un pouvoir dans un ordre qui va avoir, vous imaginez, c'est les seuls, les rois font appel à elles et elles peuvent refuser ou accepter, et c'est le destin d'un pays qui se joue. Donc évidemment, il va y avoir de la politique, évidemment, il va y avoir de l'argent. C'est l'équivalent des Templiers en féminin, en fait. Et donc là, le fait qu'elle porte une épée dans la BD, c'est très très clairement symbolique de pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas, ça représente pas leur personnalité, c'est pas un accessoire. Pour le coup, c'est la prise de pouvoir, une prise d'un tout petit pouvoir, parce qu'évidemment le monde reste très masculin et ben, justement c'est intéressant de voir comment il va évoluer avec cette arrivée-là. Mais c'est ça, c'est nous prenons pour nous un petit peu de pouvoir et l'épée représente ça. Et d'ailleurs, leurs ennemis, parce qu'ils en ont beaucoup, sont très choqués, ont l'impression que ça salit l'épée d'être portée par une femme. Un peu comme les femmes n'avaient pas le droit de mettre le pied sur les bateaux pendant une certaine époque, dont on se sert d'ailleurs aussi dans un des tomes. Et donc, notre autre série où les épées sont importantes, c'est Belladone. Alors, Belladone, et c'est très différent, c'est en gros une histoire de service secret sous Louis XIV. Et là, c'est simplement pour dire, regardez, on vous fait une histoire de cap et d'épée. C'est-à-dire, c'est vraiment un signe avec, on va prendre les codes de cap et d'épée, d'Artagnan, un partage secondaire. Enfin bon, voilà quoi, c'est pour vous dire, voilà ce que vous allez avoir comme histoire.
Il faut que je réponde à Anne. Votre première série, c'est un peu comme le séquel.
La suite
de À la pointe de l'épée, qui n'existe pas encore en France, mais c'est le privilège de l'épée. Et ça s'agit de ce qui arrive quand dans cette société, on donne des leçons en épée, on rend bretteur, bretteuse, bien, une jeune fille de qualité, une jeune fille des aristos, et tout est changé avec ça. Et il faut vous dire que j'ai un ou deux copies en anglais, si quelqu'un veut bien et peut lire anglais, j'en ai chez moi aux dédicaces.
Mais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'a pas touché au fait que l'épée est aussi un symbole de statut social. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, mais l'épée est aussi un symbole de statut social. Seuls les nobles pouvaient porter l'épée au Japon, j'imagine que...
Bah oui, complètement. Hein. C'est vrai que bon, les guerriers ont un statut social particulier au Japon aussi, hein, que ce soit les bushis. Oui, ils ont un statut social différent du simple mortel, entre guillemets. Le port de l'épée a un prestige que n'aura jamais une autre personne, un kidam, autrement, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais.
Mais petit à petit, plus en plus de monde était capable d'avoir une épée, quoi.
C'est en fait, il y a deux situations. C'est-à-dire que le port de l'épée au quotidien, je me promène dans la rue, j'ai une épée au côté, ça c'était réservé à la noblesse. C'est vrai que l'épée, bon, ben, dans les temps anciens et même avant, parce que chez les Romains aussi, le port de l'épée était le privilège d'une classe sociale, en effet guerrière et noble. Et pendant le Moyen-Âge, en Occident, on adoubait un homme en lui mettant un coup de plat d'épée sur les épaules et en baptisant au nom devant Dieu, selon Saint-Georges, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était important. Mais d'un autre côté, dès qu'il s'agissait de faire la guerre, là, on donnait des épées à tout le monde. Hein. Il n'y avait pas de... Et l'épée, elle avait aussi ça de particulier. C'est que c'est, pour revenir alors bêtement, alors là, je vais être bêtement trivial, quoi, mais c'est que ça peut être une arme particulièrement rudimentaire. C'est-à-dire que n'importe quel forgeron de village pouvait faire une épée. Il allait faire une mauvaise épée en fer qui allait peut-être pas tenir longtemps, mais qui allait quand même rendre service. Et quand vous êtes face à un type qui a une épée... La première question que vous posez, c'est pas est-ce qu'elle est en fer, est-ce qu'elle est en acier, est-ce qu'elle a été bien faite, etc. C'est pas... Donc ça servait quand même. Et on garde, en tout cas pour ce qui est de la même jusqu'au XVIIe siècle, on a encore aujourd'hui des épées qui sont uniquement en fer et qui ont bien servi. Il n'y a aucun doute qu'elles ont servi sur des champs de bataille. Ils ont été utilisés par des soldats. Mais ceci dit, vraiment, ça peut être aussi bien une arme. Et d'ailleurs, les rapières étaient en acier, étaient des petites merveilles d'ingénierie quand elles étaient bien faites par des gens compétents. Mais un forgeron prend une barre de métal. On a juste finalement à l'affiner un peu sur l'essentiel de sa longueur et l'aiguiser. On n'est même pas obligé de la faire pointue. Hein. La plupart des épées ne se servaient absolument pas des stocks, mais uniquement de taille. On donnait des coups transversaux. Donc c'est une arme qui est vraiment très très rudimentaire et finalement a assez peu de frais. Quand il s'agit de faire une hache au niveau métal, ça coûte cher, il y a beaucoup de métal, c'est lourd, et puis c'est pas pratique. C'est-à-dire qu'une épée, c'est finalement, bon, c'est un coup à prendre, mais on peut s'habituer à l'avoir aux côtés dans un fourreau. Une hache, un trabalet, c'est pas la même limonade, une masse d'armes non plus, un fléau d'armes encore moins. Enfin bref, c'est une arme qui est très très commode. Et là, on en revient quand même à l'idée que c'est une arme, et c'est vrai de toutes les armes, c'est un outil, c'est quelque chose qui sert à faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est se défendre, c'est se battre, c'est tuer. Donc, et comme tous les outils, il vaut mieux que ce soit le plus simple d'emploi possible. Il faut mieux que ce soit le plus commode. Plus c'est compliqué, plus c'est embêtant et plus on a de chances de se planter. Quoi. Y a une bonne forme pour faire une épée, comme il y a une bonne forme pour faire un marteau. Et ensuite, évidemment, il y a de plus ou moins bonnes épées, de plus ou moins bons marteaux. Mais une arme, c'est vraiment un outil. Quoi. C'est fait pour rendre un service.
Aussi, il faut souvenir qu'un épée, c'est quelque chose de dangereux et un peu effrayant. On prend garde quand on voit un homme armé avec un épée. J'ai trouvé ça. Maintenant, on a l'habitude de voir les choses de fencing, de l'escrime, mais c'est pas grand-chose. Alors, ça ne nous effraie pas. On voit dans les films, on voit au théâtre, et c'est pas choquant, c'est pas dangereux. Alors, nous, comme des gens du 21e, on a perdu l'habitude de les voir comme ça. J'ai appris cette petite leçon quand je suis allée chez un maître de l'escrime ancien du 17e siècle en Angleterre. Donc je me suis assise dans son salon. Il est entré avec un grand machine gun. Quelqu'un
mitraillette.
Ouais, oui, un de ça. Enfin, en effet, c'était en plastique, mais il disait quand j'entre ce salon avec ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça m'effraie, c'est un peu. Ça m'inquiète un peu. C'est dans l'estomac seulement. Je savais bien qu'il ne va pas me fusiller, mais quand même. Il disait, alors, quand on est au 17e, c'est la même chose quand quelqu'un entre dans une chambre avec un épée.
Oui, c'est très vrai, parce qu'en plus, ben justement, parce que le port de l'épée était. Les gens n'étaient pas plus armés à l'époque que maintenant. Hein. Donc, quand un homme arrivait avec une épée au côté, non seulement il y avait le fait qu'il était armé, mais ça voulait aussi dire que c'était probablement un soldat ou un brigand. Il y a tout ce que l'épée signifiait. S'il a une épée, c'est qu'il s'en sert. Et pourquoi est-ce qu'il s'en sert? Pourquoi il en a besoin? Et donc, tout de suite, oui, en effet, l'homme armé d'une épée. Incarne immédiatement un vrai danger, quoi. Il y a aussi le fait, c'est pour ça que, hormis le goût pour l'épée, de l'avoir l'accessoire, la beauté de la chose, le fait d'avoir des épées chez moi, ça me sert aussi parce que de temps en temps, je les prends pour me représenter ce que c'est, combien ça pèse, le fait que c'est très long, c'est très difficile à manier. Et une des premières choses à laquelle on réalise vite, c'est que à quel point l'escrime de théâtre est vraiment une escrime de théâtre, quoi. Que c'est bon, alors c'est amusant, c'est celle d'ailleurs que je mets en scène parce que c'est la plus jolie, la plus élégante, la plus spectaculaire. Elle est faite pour ça. Mais vite, on se rend compte que finalement, même si on est dans une pièce assez grande, on hésite à tirer l'épée parce qu'on va pas pouvoir s'en servir, parce que très rapidement il faut beaucoup de champ, beaucoup d'espace autour de soi pour se servir d'une épée. Les combats d'épée dans des escaliers ou dans des couloirs, c'est vraiment du cinéma, quoi. C'est pratiquement impossible. Ou alors tout le monde est comme ça et puis essayer d'éviter de s'en prendre un dans l'œil, quoi. Mais sinon, vraiment, on peut pas se battre avec une épée dans des circonstances particulièrement compliquées. Et là, il vaut mieux y aller à la dague. Et encore une fois, ce sont des outils. C'est fait pour on s'en sert dans certaines circonstances. Et les bons ouvriers qui savent bien servir de leurs outils savent comment servir et duquel, selon les circonstances, les moments et les buts visés. Quoi.
Vous avez parlé de Pierre. Tu as parlé de toi de tests avec ton épée. Vous avez parlé de rencontres avec un maître d'armes. Vous avez aussi fait des genres de recherches ou de tentatives d'escrime, etc. De votre côté pour vos romans ou pour votre plaisir.
Tu veux dire en vrai?
Bah ouais.
Ah non. Non, j'ai pas été aussi loin. Non, j'ai plutôt été voir sur Internet. Et dans les bibliothèques, évidemment, quoi. Enfin, faire des recherches sur les armes, parce que j'ai eu besoin de faire des recherches, que ce soit justement sur la gestuelle ou même simplement sur les mesures que peuvent avoir des sabres. Enfin, c'est pas forcément une chose qu'on sait tout de suite, hein. Donc effectivement, on a quand même des recherches à faire là-dessus, même si après, dans le récit, ça se voit pas forcément. C'est-à-dire qu'on intègre des choses, mais on les intègre à la narration, on les intègre à la description. Mais ce ne sont pas forcément des informations qu'on donne. Donc, c'est intégré d'une certaine façon. Ouais.
Moi, j'ai absolument fait de recherche et je ne connais absolument rien en épée. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, justement, dans la geste des chevaliers dragons, que on s'était un peu tiré une balle dans le pied sur quelque chose. J'en parlais à Emmanuel juste avant le débat, qui était. Donc, il y a 12 tomes pour l'instant, et chaque tome est une histoire complète. Et dans la plupart de ces tomes, pas dans tous les tomes, dans la plupart de ces tomes, ben, un chevalier tue un dragon. Et en fait, nos dragons, à nous, c'est des gros dragons, quoi. C'est pas des jolis dragons élégants à la japonaise, c'est des espèces d'énormes sauriens, dinosaures fois diplodocus crachant du feu, si ça nous arrange ou pas, si ça nous arrange pas. Et le chevalier avec son épée, ou même elles sont parfois 3-4 une équipe de chevaliers, donc ce sont des femmes, en fait, je me suis rendu compte que ben, c'était vachement dur de tuer un dragon. Et avec mon épée. Et donc, y a une seule manière de tuer un si gros dragon, c'est vraiment de viser la tête et d'atteindre le cerveau. Parce que sinon, imaginez, vous voyez les diplodocus dans Jurassic Park, ben, c'est pas en leur donnant un coup d'épée qu'on va atteindre le cœur. Donc il y a vraiment un problème d'échelle. Et du coup, problème dans la BD, c'est que dans le tome 1, elles vont donner un coup dans la tête, et dans le tome 2, elles vont donner un coup dans la tête, et dans le tome 3, on s'ennuie, quoi. Et donc, en fait, du coup, les combats contre les dragons dans la geste sont très rapidement métaphoriques. C'est-à-dire que avec la BD, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut montrer une image de la chevalier contre le dragon, puis un autre instantané, puis un autre instantané, puis il y a du sang, et puis il y a la tête du dragon, puis il y a du feu, puis il y a un cadavre par terre, et puis on ne sait pas très très bien comment ça s'est passé. Et à la fin, le dragon est mort et la chevalier est comme ça. Et on ne sait pas trop. Donc en fait, à chaque fois, elle le tue d'un coup d'épée dans la tête, mais on ne va pas le remontrer à chaque fois parce que finalement, ce n'est pas intéressant. Et c'est là où je reviens au fait que l'épée dans la geste est un symbole. Et un symbole de pouvoir parce que le dragon, c'est important, mais en fait, on veut parler de. Le dragon est un symbole de changement, en fait, dans cette série. Et on veut parler du changement du monde à travers des histoires de chevaliers.
On va s'intéresser un peu justement à la façon dont vous décrivez des combats. Tu as dit que tu évitais de te répéter dans les BD. C'est un peu la même chose pour vous. Vous évitez de reproduire à chaque fois le même duel.
Non, c'est jamais la même à cause des personnages. Car moi, pour être intéressant, pour décrire, c'est une pensée contre l'autre, un peu comme la chaise, les échecs. Peut-être. Alors c'est plus mental que mais bon, enfin j'ai décrit, je fais des rythmes de combat. C'est Gene Wolfe que vous connaissez. Oui, c'est Gene Wolfe qui m'a dit. J'étais dans une petite conférence comme ça, tout à fait après que c'est parvenu aux États-Unis, et il a lu une scène de combat de mon livre pour démontrer comment les cadences des paroles étaient comme le combat même. Bon, alors je fais ça. Je ne savais pas.
C'est un honneur, Gene Wolfe. Oh,
j'ai rougi, je voulais me mettre dessus la table. Oui, c'était un très, très grand honneur.
Pierre, toi, tu as une façon beaucoup plus cinématographique de décrire tes combats.
Moi, les combats, je les visualise beaucoup. Ceci dit, on est limité par quelque chose en littérature lorsqu'il s'agit de décrire des actions. Déjà, grosso modo, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire, si on ne veut pas écrire « il donnait un coup d'épée » et « l'autre donnait un coup d'épée » qui donnait un coup d'épée pour donner un coup d'épée.
C'est comme hier soir, on parlait de l'érotisme, c'est la même chose.
Oui, c'est un peu pareil. C'est qu'au bout d'un moment...
Moi, c'est « il donnait un coup de sabre, il donnait un coup de sabre ».
Voilà, donc on est limité par ça. Donc, on peut pas décrire... Et puis, en plus, après, il y a encore en plus une question de rythme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire les détails des actions. On ne peut pas décrire autant de choses qu'on en verrait à l'écran, au cinéma ou à la télévision lors d'un duel. Donc déjà ce que je fais, c'est que je décris des phases de duel de manière très générale. C'est-à-dire, je vais dire qu'un tel prend l'ascendant sur un autre, etc. Et puis par contre, c'est sur certains coups d'épée particuliers qui vont être spectaculaires ou importants dans la scénographie et dans le rythme du combat que je vais décrire dans le détail. Et ensuite, je vais revenir à quelque chose de plus général. Et ensuite, je vais redécrire un coup. Et en général, et souvent, je vais finir le coup qui finit le combat, le duel, lui va également être décrit. Mais on ne peut pas tout décrire dans le détail. Ou en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas assez de vocabulaire ou je n'ai pas trouvé la ressource de le faire. Donc, Je mêle des descriptions plus générales à des descriptions extrêmement précises de coups particuliers. Et si on se débrouille bien, ça donne un combat qui va être aussi assez rythmé. Le rythme de la phrase compte également beaucoup. Moi, je crois que on perd en impact si je passe un paragraphe à décrire un coup, un mouvement qui dure une fraction de seconde. Je pense que c'est une erreur, qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut que, autant que faire se peut, que le rythme de la lecture corresponde au rythme de l'action et à la vitesse de l'action. On peut décrire longuement un paysage si on passe beaucoup de temps à le regarder, le paysage, ça a un sens. Par contre, si c'est un coup très rapide qui doit surprendre tout le monde, le décrire trop dans le détail, on est obligé de rallonger, on fait le trop long et donc on perd du rythme. Un combat, ça doit quand même être, surtout un beau combat d'escrime, ça doit être quelque chose d'entraînant, de stimulant. Il faut que le lecteur soit embarqué par le rythme. Et finalement, aussi bien que ce que l'on décrit, que la manière dont on le décrit compte parce que on insuffle au combat, c'est le rythme de la phrase qui dirige le rythme véritablement du combat qu'on décrit, beaucoup plus que l'action. Et un coup subi, rien, par exemple en français, subi, le mot est très bien, quoi. Il est même plus efficace que rapide. Subi, il y a quelque chose. Le B, il y a quelque chose comme ça. Donc, il faut compter avec ça. Alors ensuite, il faut espérer avoir un bon traducteur qui en tient compte. Mais oui, là, le style compte beaucoup. D'ailleurs, je trouve que les scènes de duel, les scènes de combat à l'épée sont parmi ce qu'il y a de plus difficile à faire. Moi, c'est ce qui me demande le plus d'effort pour se renouveler et puis pour tenir compte de tout ça. C'est-à-dire d'avoir un combat qui, au final, est facile à lire, rapide, visuel, descriptif, efficace. Pour faire tout ça, c'est beaucoup plus difficile que de décrire une jolie maison ou un arbre. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment... parce qu'on a plusieurs obligations, plusieurs critères de qualité à respecter. S'il faut une page pour décrire un arbre ou pour décrire une ville, pour décrire une maison, on peut le faire. Si on a besoin d'une page pour décrire un coup d'épée, c'est qu'on s'est trompé. Donc, je sais que les duels, j'aime bien les décrire, j'aime bien raconter, mettre en scène des combats à l'épée. Bon, sinon, je m'y serais très mal pris, j'ai mal choisi mon sujet. Mais c'est assez difficile, en fait. Ça demande vraiment un effort de style et autant que d'imagination et de vision.
Thomas, tu confirmes ?
Bah ouais, moi je suis d'accord avec Pierre. Hein, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Mais je crois qu'il faut, avant tout, pour faire une bonne scène de combat, c'est avoir un bon cadre. Et il faut, à mon avis, bien choisir son cadre avant de placer sa scène d'action, et notamment sa scène de combat. Et c'est vrai qu'une scène de combat à l'épée, par exemple, ne sera pas du tout la même si elle a lieu sur un pont ou si elle a lieu sur un bateau en pleine attaque, quoi. Et donc, à mon avis, l'espace de combat est aussi important que le rythme de l'action qu'on imprime à l'intérieur de ce duel. Voilà. Donc, après, moi, je suis sur tout ce que Pierre a dit, ouais, je suis entièrement d'accord. Là, j'ai vraiment rien à redire. Hein.
Anne ?
Oui, il faut voir que notre rival sur les histoires d'épée, c'est le cinéma. Et le cinéma, ils ont des trucs qu'on n'a pas. Hein, ils ont la musique, ce qui va donner un rythme, évidemment, ou une ambiance, ou une force que nous, ni en roman, ni en BD, on a. Ils ont le ralenti, les plans tournés autour du duel, comme ça, avec leur caméra, leur hélicoptère, etc. Alors, ça, par contre, on peut le faire en roman. C'est-à-dire, on peut prendre du recul et par des phrases, on peut faire les mouvements de caméra par des phrases, on peut prendre le recul par les phrases. Et vous avez en roman ce que moi, je ne peux pas faire en BD, c'est-à-dire rentrer dans la tête des personnages. C'est-à-dire qu'on peut le faire un petit peu, mais ça va être difficile. Je veux dire, on peut faire des gros plans sur les visages, mais à part le fait qu'ils soient tendus, nerveux, serrés ou inquiets, on ne peut pas vraiment aller dans les détails de leur motivation. Et dans un roman, les deux escrimeurs peuvent ne rien dire, mais que le roman, lui, parle de l'enjeu. C'est-à-dire, s'il ne gagnait pas ce combat, la princesse allait se suicider sur la falaise. Vite, il fallait qu'il gagne. En BD, au secours, en BD, on peut pas, enfin, je veux dire, je peux pas mettre des bulles de pensée avec « si je ne gagne pas ce combat, la princesse va se suicider sur la falaise ». Ou alors ça devient les chevaliers du Zodiac. Chevalier noir, tata. Et on peut plus faire ça maintenant en BD moderne. Donc...
Ouais, dans les comics, les super-héros, ils cogitent encore beaucoup en se mettant des grands ramponneaux et on se dit, mais comment t'as pu penser tout ça en un coup de poing, Superman? Je suis Superman!
C'est super. Dans les mangas, c'est pareil. Hein. Dans les mangas, ils font ça aussi, hein, tout le temps. Hein.
Et on ne fait pas ça en BD franco-belge. C'est-à-dire que notre manière de le faire, c'est les voix off. C'est-à-dire que la pensée en BD, vous vous rappelez à l'ancienne, là, avec les petites bulles comme ça, puis choc, 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 ça ne se fait plus du tout. Donc notre seule manière de faire penser nos personnages, c'est d'avoir ou une voix off, ou la voix off du narrateur, ou d'un des personnages dans la BD. Mais dans ce cas-là, ça sera, vous savez, avec les cases comme ça, ça ne sera plus vraiment des pensées. Et là, si on a une narration, mais on ne l'a pas à chaque fois, si on a choisi d'avoir un album avec une forte voix off, on peut avoir les moyens du roman.
Je pense même qu'on peut avoir la musique aussi. Mais en fait, la musique, elle nous appartiendra à nous. C'est-à-dire qu'on peut, on peut écrire une scène d'action. Enfin, je ne sais pas si vous, vous écrivez en musique, par exemple, mais moi, ça m'arrive d'écrire des scènes d'action avec une musique bien précise. Bon, après, je sais que la musique, elle est dans ma tête et elle m'appartient à moi. Et elle n'appartient pas forcément au lecteur, mais la chose la plus simple, à la limite, qu'on puisse faire, c'est partager la musique qu'on a écoutée en la fitant dans le roman. Bon, c'est vrai que c'est dévier la chose, mais ça peut être intéressant aussi. Voilà, que peut-être le lecteur aussi fasse l'effort de regarder, par exemple, si l'auteur a mis sa BO, fasse l'effort de regarder cette BO et d'écouter la musique choisie par l'auteur en lisant le bouquin. Pourquoi pas, quoi. Ça, voilà, ça peut être une solution qui n'est pas effectivement aussi claire que celle du cinéma, c'est évident, mais bon, qui peut être intéressante.
Mais en roman, il y a, comme le disait Hélène, il y a une question de rythme, de peut-être aussi une musicalité des mots qui peut faire cet office.
Je me souviens, Anne, que tu m'avais expliqué que tu utilisais parfois, en particulier sur des scènes d'action, c'était pour la série sur les anges, là, où tu me disais que tu utilisais des cases, en fait, des bulles, pour arrêter le regard, ici ou là, pour éviter que, pour diriger le regard, obliger le regard à aller ici ou là. Et pour, donc, tu faisais une utilisation de la bulle, même si qu'il se disait pratiquement rien dedans, parfois même c'était des runes, des écritures elfiques, enfin angéliques, qui sont intraduisibles, qui n'ont pas de sens véritable, mais seulement pour rythmer la case et donc rythmer l'action.
Alors ça, vous me donnez un débat à moi toute seule et je vous parle de la structure d'une planche de BD, hein, y a pas de problème.
Réussi, on peut rentrer.
Donc, je fais des formations sur ça. En fait, le truc, c'est que dans une peinture, le regard tombe comme ça. C'est-à-dire que vous commencez à regarder ici et le regard tombe comme ça et les peintres le savaient parfaitement et faisaient ce qu'ils savaient, que le fil du regard allait comme ça, et travaillaient le regard pour que le regard suive. Pour que le regard soit attrapé par leur sujet. Et nous, en BD, on a un gros problème, c'est que si le regard du lecteur il fait ça, ben, il n'a pas eu la planche, parce que la planche, il doit faire ça. Et donc, on a des tas de trucs pour que le regard ne tombe pas. Et le dessinateur va avoir des lignes de force. Par exemple, tout simplement, s'il est en case 1 et qu'il a une épée, justement, une épée, c'est parfait pour faire une ligne de force, et qu'il tient son épée comme ça, le regard va suivre l'épée et aller en case 2. En case 2, il va y avoir, par exemple, une colonne ou un arbre ou une liane qui va traverser la case 2 et nous amener en case 3. Et alors ça, c'est les trucs du dessinateur. Et finalement, les dessinateurs qui sont très doués, qui font de magnifiques illustrations, mais qui ne savent pas faire ça, et on ne sait pas pourquoi, mais la narration n'est pas claire, le lecteur se dit « c'est beau, mais je ne comprends rien ». Et ça, c'est un dessinateur qui ne sait pas faire ça. Et nous, les scénaristes, on sait que la meilleure manière pour faire suivre le regard, c'est les bulles. C'est les bulles, parce que s'il y a une bulle là, le lecteur spontanément va suivre les bulles. Et alors attention, le placement des bulles dans la case est important aussi. D'où problème s'il y a une scène silencieuse. Et donc, quand j'étais jeune scénariste, je faisais 2-3 planches où il n'y avait pas du tout de dialogue. Et bien, c'est une grave erreur. Parce que le dessinateur avait beau faire des cases sublimes avec des villes d'héroïque fantasy merveilleuses, le type, il faisait ça. Tchoum, 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 tchoum. Et voilà. Et donc, en fait, il faut arrêter le regard avec des bulles. Et ce que j'avais raconté à Pierre, c'est que parfois, par exemple, pour Paradis perdu, il y avait des anges et des démons. Les anges parlaient en idéogrammes. On ne sait absolument pas ce qu'ils disent, mais simplement le fait qu'il y ait des idéogrammes et donc des bulles va arrêter le lecteur assez longtemps pour qu'il admire, par exemple, les magnifiques scènes de paradis faites par Alberto Baranda ou des scènes délirantes sur l'enfer. Et c'est bon, ils vont prendre le temps de s'arrêter sur la case. Mais ça, c'était pas à propos des épées, donc.
Oui, mais on n'en est pas loin. tout comme un romancier va pouvoir s'intéresser à un détail particulier pour attirer l'attention du lecteur. C'est un peu le cas du début de votre roman, avec la pointe et le sang qui coule sur la neige.
C'est intéressant, ça. Oui, c'est un peu cinématique, le début de sorte à la pointe de l'épée. C'est marrant que je n'aime pas trop les films. Mais quand même, je crois que je l'ai vu comme une pièce de théâtre traduite bon, en film. Alors, je demande, oui, que l'œil me suit pour aller là. Et puis là, je dis, ben non, n'allez pas là, c'est ici. Et puis, ça change tout. Merci. Oui, oui.
Il nous reste à peu près 6 minutes. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Soyez pas timide.
Il faut vous dire que...
Oui, donc je répète pour Sam Neill, qui a écrit Chevaucheur d'ouragan chez Mnemos. Il a publié pour chaque chapitre, il me semble, hein, une sélection sur 10 heures. Et donc il y a 10 heures, blabla, chapitre 1, et il y a une série de chansons qu'on peut écouter. Et effectivement, ça permet de se plonger dans l'univers. C'est un peu ce que disait.
J'ai fait un petit peu ça pour le Sabre de sang. Enfin, j'ai mis, pour le tome 2, en tout cas, j'ai mis ma BO. À la fin, en fin de volume, et sur mon blog, on sert des outils modernes. Hein. Je suis allé récupérer des vidéos sur YouTube, etc. Et sur mon blog, j'ai mis toutes les vidéos des musiques que j'ai utilisées pour écrire le Sabre de sang 2. Voilà. Je trouve que c'est un procédé effectivement qui est plutôt intéressant, quoi, de voir comment travaillent justement les auteurs là-dessus par rapport à leurs influences aussi. Hein. On en a tous, donc.
D'accord. Une petite question pour finir. Est-ce que vous vous souvenez du premier bretteur ou assassin quel est le bretteur qui vous revient en mémoire le plus ancien premier de votre enfance ou quelque chose comme ça?
Très bonne question.
Zorro.
Très bon.
Ah ouais. Ouais, Zorro, aucun doute. Zorro, noir et blanc dans les imitations de Pierre Tchernia. J'ai 43 ans. Oui, non, il n'y a aucun doute. Ouais, Zorro.
Pierre qui?
Moi, je dirais Rolf Lynn, mais je ne sais plus dans quel film. Et sinon, ouais. Si, il y en avait un qui me revenait en mémoire, mais pour le faire rejaillir. Ah, zut, je ne me retrouve pas son nom.
Sinon, il y a Luke Skywalker aussi, quand même.
C'est ou Robin Hood, ou bien. Les romans, je ne sais pas si c'est connu en France, The Scarlet Pimpernel. Et puis, oui, c'est ça. Et Scaramouche aussi.
C'est Scaramouche aussi, oui.
Ça compte Thierry la Fronde.
Moyennement. Ok, donc on a vu rapidement ce que pouvait être une épée, à la fois un objet très simple et très complexe en fonction de sa conception et son utilisation, de par sa symbolique aussi, parce que on l'a rapidement abordé, mais le symbole de l'épée, c'est il y a beaucoup de choses. Donc on parlait de justice, de droiture, de pouvoir. On a vaguement évoqué le verbe en parlant des adoubements, n'est-ce pas, Pierre? Bref, c'est un sujet un peu complexe, mais on y reviendra sûrement sur une prochaine édition des Imaginales. Pourquoi tu rigoles?
Je rigole pas, moi. Est-ce que j'ai l'air de rire, hein?
Non, jamais du tout. Merci Hélène pour votre excellent français. Merci Yann, merci Thomas, merci Pierre pour votre excellent français aussi.
Et merci à ceux qui a pensé de cette petite rencontre. Et chacun est très très bien choisi. Je crois qu'on vient de très différents points de vue. Alors, moi, je le trouvais très très bon.
On a été très bon, je trouve aussi.
Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller les rencontrer à la Bulle du Livre jusqu'à dimanche. Merci.